Aujourd'hui c'est dimanche, dimanche de Pâques, 12 avril, le journal. Bernadette Chamonaz, bonjour Bernadette.
Bonjour, pas d'amour sans preuve d'amour, le cri du cœur des Français pour leurs soignants, des centaines d'initiatives concrètes pour les soutenir. Nous serons dans un quartier parisien mobilisé pour l'hôpital voisin. À Rome, le pape François confiné mais au plus près des fidèles, il s'invite au journal de 20h, vous l'entendrez. En Allemagne, les dividendes du scandale des actionnaires grassement rétribués malgré la crise, explication de notre correspondant. Épandage dans les cultures, dérogations accordées pour les limites et les riverains en colère, vous les entendrez. En sport, un coup dur pour les clubs de foot amateurs. Les traditionnels tournois de Pâques sont annulés.
Les invités de la matinale. D'abord à 8h10 tout à l'heure, Patricia Martin, qui recevrons-nous ?
Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus touchés par le Covid-19.
Et puis à partir de 8h20 ce matin, témoignage d'un médecin, Jean-François Corti, son expérience auprès des patients atteints du Covid-19 et vos questions dès maintenant au docteur Corti. C'est au 01 45 24 7000.
France Inter.
Ils sont confinés mais pas inactifs. En France, ils sont des milliers à donner de leur temps pour les soignants.
Et s'il faut retenir du positif de cette crise, c'est bien cet élan, toutes ces volontés qui se lèvent. Un chiffre, 70 000 personnes se sont inscrites sur la plateforme jeveuxaider.gouv.fr lancée par le gouvernement fin mars. Aider d'abord les soignants, comme ces habitants d'un quartier du 20e arrondissement de Paris, pour leur hôpital tout proche, l'hôpital Tenon. Timur Özturk nous raconte cette commune aventure.
Les bras chargés de gâteaux faits maison, Nathalie approche de l'entrée de l'hôpital Tenon. Elle est membre d'un collectif de voisins qui aide quotidiennement les soignants.
On a été plusieurs en fait à se dire les applaudissements c'est sympa mais on peut peut-être être plus utile plus concrètement. Entre temps on est entré en contact avec un puis deux puis trois soignants qui nous font remonter les besoins.
Comme Sophie, infirmière, elle sort des urgences pour réceptionner les dons.
Franchement ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien moral quoi.
Ces riverains solidaires cuisinent, mais ils confectionnent aussi des masques en tissu. 700 exemplaires ont déjà été distribués.
C'est pas pour l'intérieur de l'hôpital, c'est plutôt pour l'extérieur.
Il leur en fallait pour le trajet du retour, pour les courses, déjà qu'il manque des masques au sein de l'hôpital et même en réanimation.
Dans ces unités-là, qu'il n'y ait pas de masque pour protéger les soignants, c'est pas normal, quoi.
Nathalie sait bien que la bonne volonté des voisins ne peut pas remédier au manque de matériel médical.
C'est de ça dont ils auraient besoin, on peut pas leur fournir, nous. Mais on peut leur fournir des preuves de soutien. Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour, ben voilà.
Après des semaines à se croiser à l'entrée de l'hôpital, bénévoles et soignants espèrent partager un grand pique-nique une fois le confinement levé.
Autre initiative à signaler, cette fois l'initiative des soignants, des médecins qui lancent un numéro vert pour les plus démunis, ceux qui sont dans la rue, c'est le 0-800-94-66-90. Il est gratuit et il est joignable tous les jours de 7h à 22h.
Une autre éclaircie en cette période sombre, c'est la situation à l'hôpital.
Toute petite éclaircie, a précisé le directeur général de la Santé dans son point presse quotidien hier soir. Le nombre de patients en réanimation, il baisse pour le troisième jour consécutif. Ils sont encore 6800 malades graves dans ces services. Le virus a provoqué encore en France 635 morts ces dernières 24 heures. Bilan pour les hôpitaux et pour les EHPAD. Dans ce contexte, les fêtes de Pâques prennent un tour hors norme. Des églises sont fidèles et cette image saisissante que l'on verra ce midi à Rome d'un pape seul dans une basilique Saint-Pierre vide pour la bénédiction Urbi et Orbi. Mais on connaît le caractère du pape François, pas question pour lui d'être coupé des gens. Alors Bruce de Galzin, il s'est invité tout simplement à la télévision.
Ce soir, j'ai la possibilité de rentrer dans vos maisons de façon différente que d'habitude. C'est le pape qui parle dans le journal de 20h de la chaîne la plus regardée en Italie. François s'adresse aux familles pour leur dire sa proximité et son affection. Et puis, il y a deux jours, en plein Vendredi Saint, François s'invite même en direct dans une émission grand public avec un coup de fil à la présentatrice Lorena Bianchetti.
Pronto, buonasera Lorena, come sta?
Papa Francesco.
En ce moment, je pense aux nombreux crucifiés dans l'histoire, mais aussi à ceux d'aujourd'hui, à cette pandémie, médecins, infirmiers, infirmières, religieuses, prêtres, qui sont morts au front, comme des soldats. Et puis au bout de 3 minutes, le pape raccroche. François veut être visible. Il s'est senti dès le début de la pandémie comme en cage, dit-il. Et s'est confié à un journaliste britannique. Ce n'est pas facile de rester enfermé, dit-il. Lui, le pape des périphéries. Ce pape populaire qui donne aussi sa lecture de la crise. Nous devons ralentir un certain rythme de consommation et de production, selon François. dont l'image a été mise en scène à plusieurs reprises, seul, sur la place Saint-Pierre, vide. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Et en France, les diocèses invitent les paroissiens à se connecter sur leur site pour suivre aujourd'hui les messes en direct. Le bilan de l'épidémie dans le monde dépasse les 100 000 morts, avec comme foyer principal les États-Unis, 1920 nouveaux décès ces dernières 24 heures. En Allemagne, la polémique enfle. Ce qui a mis le feu aux poudres, l'annonce par les grandes firmes automobiles et les géants de l'assurance qu'ils ont bien l'intention de redistribuer une partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires, les dividendes de la colère. Explication de notre correspondant à Berlin, Ludovic Piétenu.
De généreux dividendes d'un montant de 7,5 milliards d'euros rien que pour les trois grands constructeurs BMW, Volkswagen et Daimler. Alors que 200 000 de leurs salariés sont indemnisés par les deniers publics, l'État prend en charge jusqu'à 67% de la perte de salaire subie en raison du coronavirus. Il s'agit bien d'une subvention. Quand on en reçoit une, on ne distribue pas en même temps ses profits aux actionnaires, s'agace un élu social-démocrate au Bundestag. C'est le visage hideux du capitalisme, poursuit-il, rejoint par d'autres qui demandent un moratoire sur ces dividendes que seulement un quart des 160 plus grandes entreprises cotées à la bourse en Allemagne ont l'intention de ne pas verser cette année. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Et en France, c'est la date butoir aujourd'hui pour les chefs d'entreprise qui veulent mettre leurs salariés en chômage partiel. Date butoir pour la déclaration du mois de mars. 700 000 entreprises bénéficient du dispositif. 8 millions de salariés sont aujourd'hui en France en chômage partiel.
La saison des épandages commence dans les champs.
Et les riverains confinés crient à la double peine. Coincés chez nous, encore plus exposés aux pulvérisations. D'autant que 25 préfets ont accordé des dérogations pour diminuer les distances d'épandage entre maisons et cultures. L'association Eaux et Rivières de Bretagne dénonce un scandale. Dites-nous pourquoi Sandy Dauphin.
Depuis le mois de décembre, la nouvelle réglementation prévoit des zones de non-traitement entre les maisons et les champs, de 5 mètres pour les céréales par exemple, et de 10 mètres pour l'arboriculture. Des dérogations sont possibles, notamment si des chartes de bon voisinage sont signées. 25 préfets ont d'ores et déjà accordé des dérogations qui réduisent les distances minimums de pulvérisation. Une aberration pour l'association Eaux et Rivières de Bretagne, Jean Ascou. Porte-parole.
En pleine crise de coronavirus, les préfets décident unilatéralement de diminuer par deux les distances, alors que les personnes aujourd'hui sont astreintes à rester à leur domicile. C'est un peu pour elles la double peine.
Des dérogations préfectorales ont été accordées, alors même que certaines chartes de bon voisinage ne sont pas encore signées. La faute au confinement, explique la présidente du syndicat agricole FNSEA, Christiane Lambert.
Nous n'avions pas, nous, prévu que la pandémie bloque tout, y compris les consultations du public. Et donc, ce que nous avons fait, c'est déposer nos chartes dans 25 départements. Il n'y aura pas de hold-up ou de confiscation de la consultation. Elle aura bien sûr lieu. Mais après.
Un argument défendu également par la préfecture du Finistère qui a accordé une dérogation aux agriculteurs sans la concertation publique prévue.
Sandy Dauphin, Pâques est aussi pour les clubs de football amateurs un moment de rassemblement. Des dizaines de tournois organisés chaque année, cette fois bien sûr impossible. Et les conséquences sont multiples. Exemple avec Jean-Pierre Blimeau du club La Maladrerie Omnisport de Caen.
Un millier de participants, essentiellement dans les catégories de jeunes, des équipes qui viennent de la région normande, mais aussi de Bretagne, de Mayenne ou de région parisienne. Le tournoi de Pâques de la Maladrerie Omnisport est une institution depuis 1990 dans la région cannaise. L'annulation de ce tournoi ne pose pas seulement un problème économique. Thierry Deslandes, le président du club.
C'est souvent l'occasion pour le club de rassembler toutes ses troupes autour du projet du tournoi. Deuxième point, c'est un élément de recette. La buvette, les sandwichs, les crêpes... Mais aussi les inscriptions. Alors, c'est pas une recette énorme, mais à chaque fois, en résultat net, on est toujours entre 5 et 6 000 euros à minima.
Avec 600 licenciés et un budget annuel de 430 000 euros, ce club, bien implanté dans un quartier de la ville de Caen, n'est pas en danger avec l'annulation de son tournoi de Pâques, mais l'inquiétude est à plus long terme.
Les clubs amateurs, c'est un financement souvent croisé entre des subventions, des cotisations, des recettes de commerçants ou de petites PME dans leur bassin de vie et des événements comme ceux-là qui sont organisés. Vu le contexte, les clubs vont être un peu en difficulté prochainement.
Traditionnellement, le week-end de Pâques lance la saison des tournois de foot en France. Les clubs qui comptaient sur les ponts du mois de mai ou sur le week-end de la Pentecôte sont dans le flou le plus total.
Le Masters de Madrid, lui, n'est pas tout à fait annulé. Il aura lieu sur console vidéo. Raphaël Nadal y participera. On va enfin pouvoir le battre sur terre battue, se réjouissent déjà certains joueurs. Pas sûr, hein. Il paraît qu'il est aussi bon aux manettes qu'à la raquette.
Oui, il s'entraîne notamment dans les vestiaires de Roland-Garros. Ça a joué effectivement régulièrement à la console vidéo, ce numéro 2 mondial du tennis, Raphaël Nadal. C'était le journal de Bernadette Chamonaz. Le temps de ce dimanche, Jean-Michel Golinski, ça change, hein, avec notamment des orages dans l'ouest et aussi sur la moitié nord du pays.
Ah, tout à fait, avec des averses orageuses plus fréquentes dès ce matin des Pyrénées aux Charentes et se dirigeant vers la Bretagne en journée. Dans la moitié nord du pays et dans le Grand Est, les averses parfois accompagnées de coups de tonnerre seront plus dispersées que près de l'océan. Et puis dans le quart sud-est, là on va conserver un temps sec mais souvent voilé, dans des températures en léger déclin à l'ouest mais généralement stationnaires à l'est. Par contre, demain, dégringolade des thermomètres sur une large moitié nord du pays, une baisse de 7 à 10 degrés par exemple à Brest, Rouen, Lille, Metz et Paris, avec des averses au nord d'un axe Charente-Franche-Comté. Le retour tout de même rapide d'un bon ensoleillement au nord de la Seine, mais le vent de nord-est sera très désagréable. Et puis dans la moitié sud, alternance d'ondées et d'éclaircies avec une séquence de pluie régulière du golfe du Lion à l'ouest de la Provence.